Je suis désolé de ne pas avoir pu assister à l'ensemble des journées. J'étais là un peu de façon perlée et ponctuelle. Parce que j'ai pas. Si je suis ici, c'est vraiment au titre d'un double intérêt, un intérêt professionnel, mais aussi un intérêt personnel. Et l'intérêt professionnel ne s'est pas traduit par des heures libérées. Donc j'ai pris sur le temps personnel. J'ai dû pousser un peu à droite et à gauche pour pouvoir participer avec vous. Donc Vincent Massard, j'habite sur Lyon et je suis formateur à l'UFM depuis 2005 environ, d'abord à temps partagé et puis depuis quelques années à temps plein. Avant cela, j'étais en lycée professionnel pendant 12 ans avec la bivalence, enfin la trivalence, quadrivalence, on ne sait plus, lettres, histoire, géo, éducation civique. Et j'en passe, et des meilleurs. Et avant cela, j'ai enseigné 3 années à l'étranger, en Égypte. Et depuis donc quelques années, j'interviens à l'UFM autour principalement de 3 domaines. Bon, je suis amené à tout faire, comme de juste. Aussi des choses que je ne sais pas bien faire. Et des choses que autour desquelles je me suis un peu plus formé, notamment la didactique de l'écrit. Donc je fais beaucoup pratiquer des ateliers d'écriture, et donc là tout ce qui touche à la didactique de l'écrit, tout ce qui touche autour du genre en littérature de jeunesse, et puis tout ce qui a trait, toutes les questions qui tournent autour de la question du décrochage et des besoins spécifiques des élèves en difficulté. De par mon origine lycée pro, la question du décrochage était une question qui forcément faisait partie de mon horizon. Voilà, ça c'est du côté professionnel, donc j'ai le PLP2, j'ai été formé en 95-96 à l'UFM, autant il y avait des formations à temps plein, je suis passé par la fac. Voilà, donc c'est tout ça, c'est tout ce qui apparaît sur mon CV. Donc je suis très fier ça sert à rien, mais je le montre quand même à chaque fois pour à tous ceux qui veulent bien me le voir. Mais sur ce CV, il y a que ça en fait. Il y a que ce que j'ai appris et ce qui a été validé de manière diplômante, ou par un certificat, ou par un diplôme, ou par un concours. Et à côté de ça, je suis père de 4 enfants. Donc j'ai enseigné, je suis parti en Égypte dans le cadre d'une association. Et pendant très longtemps, j'ai participé aux activités proposées à ATD, comme d'autres vont au scout ou au centre social. Moi, j'allais dans un groupe qui s'appelait Tapori. Puis après, j'ai été jeune allié. Voilà. Et donc, j'ai suivi tout un cursus au sein de l'association du mouvement ATD. Et donc, vous voyez bien, je vous présente les deux choses en parallèle. Hein, ces deux faces de ma personnalité étanche, comme il se doit. On ne mêle pas les deux. D'un côté, tout ce qu'on sait faire et pour lesquels on a été validé. Et puis, d'un autre côté, ben, tout ce qu'on est. Et puis, on ne sait pas bien comment se passent les choses. Mais forcément, quand on est enseignant, il y a des interactions, il y a des... Alors, je voudrais repartir de quelques questions. Enfin, les moments où j'ai été là, j'ai noté quelques phrases. Alors, j'ai entendu parler de turnover des enseignants, des enseignantes. Dans les écoles, à Vienne. On a entendu parler de bizutage quand il s'agissait des parents. On a beaucoup parlé aussi de la question du travail collectif, partenariat. On a évoqué certains dérapages en termes de posture enseignante ou des positions mal assurées. Hein, CF, les annotations dans les carnets, par exemple. J'ai noté cette phrase, les jeunes se prennent le métier et la vie en pleine figure. Je trouve que c'est intéressant ce lien. Et puis la question de départ, j'étais pas là mais on me l'a rapporté, la question que pose Patrick, c'est est-ce que l'empathie s'enseigne? Donc voilà, je notais ça. Et du coup, comme je suis là au titre de cette, là encore, de cette bivalence, c'est le lycée professionnel qui autorise ça, à la fois ce souci que j'ai professionnellement, c'est-à-dire je me trouve de manière régulière devant des jeunes étudiants, des stagiaires ou des collègues qui sont déjà en place, et on se pose ensemble la question de comment on enseigne, comment on apprend, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui sont en difficulté, qu'est-ce qu'on fait avec les parents auxquels on ne sait pas s'adresser ou qui ne viennent pas. Donc toutes ces questions dont on a débattu pendant toutes ces journées, je me les pose en termes de transmission. Comment est-ce qu'on les aborde avec des collègues, des jeunes ou moins jeunes? Et cet autre côté aussi qui est finalement, moi, d'un point de vue personnel, ancré, je porte le souci de ce que l'école puisse faire réussir tous les enfants, tous les jeunes. Je porte le souci que les jeunes sortent de lycée professionnel avec un diplôme pour lequel on les prépare et qui se barrent pas au mois de décembre ou au mois de mars. Et je porte le souci que qu'on puisse vivre ensemble dans une société apaisée où chacun puisse avoir sa place et prendre la parole de façon autonome et libre. Voilà, et je me demande comment ces questions-là se croisent, s'entremêlent, se nourrissent les unes les autres. Alors je voudrais vous citer deux anecdotes, du coup. La première, donc des anecdotes personnelles. Il y a quelques années, j'étais encore prof en lycée professionnel à plein temps, et j'avais des CAP, et il se trouve qu'un week-end, j'accueillais un ami adulte, que j'avais rencontré à TD Carmonde il y a fort longtemps, donc quand j'étais, voilà, on a grandi ensemble. Lui, aujourd'hui, je sais plus comment on appelle ça, il est reaper, hein. En fait, il vide les poubelles. Et il court derrière un camion, il a mon âge, mais il a le dos tout abîmé. Et puis moi, je suis aujourd'hui prof à la fac. Mais on se rencontre de temps en temps et on a beaucoup de plaisir à se voir. Et donc un jour, il est venu à Lyon et je l'emmène faire un week-end du côté de Mâcon, où j'avais d'autres amis. Et donc on passe 5 heures dans la voiture, on discute, on était très contents de se voir, et puis arrive la soirée, on prend l'apéro, on discute, on refait le monde, t'as entendu la dernière réforme du ministre de l'Éducation nationale, franchement, n'importe quoi. Le dernier livre, qu'est-ce qui saisit bien l'esprit du temps, voilà, et on discute, et le copain en question dit rien, mais pas un mot. Et donc le lendemain matin, je lui dis, écoute, si on se tapait 5 heures de voiture pour faire la gueule comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est tout. Le week-end se passe. C'était très sympa. Retour. 5 heures, c'était plus loin que Mâcon. Hein. C'était du côté de, ouais. Non, c'était du côté de, je sais plus. Après, du côté d'Angoulême, là-bas. Et, en revenant dans la voiture, il me dit, tu sais, Vincent, je faisais pas la gueule vendredi soir. Je faisais pas la gueule, mais je comprenais rien de ce que vous disiez. Tu me posais des questions et je ne pouvais pas répondre, je ne comprenais rien. Moi, je sais pas lire. Et tu me poses des questions que j'ai pas lu les livres. J'aimerais bien que des gens qui savent lire comme toi puissent me lire, parce que ça m'intéresse. Mais je faisais pas la gueule, je comprenais rien. Et le lundi matin, j'étais devant ma classe de CAP. Et je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent eux? Voilà. Donc ça, c'est la première anecdote pour vous montrer comment, enfin, moi, c'est pour moi, enfin, c'est, vous voyez, ça, comment tout d'un coup, ce qui était vécu en week-end, tout d'un coup, le lundi matin, devant cette classe en grande difficulté, hein, c'est une classe où sur 24 élèves en première année, il y en a 10 en deuxième année qui ont passé l'examen et il y en a 3 qui l'ont eu. Donc en termes de réussite, c'est terrible pour l'enseignant que je suis. Et donc cette question, mais est-ce qu'ils comprennent? Voilà, la deuxième anecdote, c'est un jour un autre ami, pareil, que j'avais rencontré dans le cadre d'ATD, beaucoup plus jeune lui, qui était en foyer. Un jour, il m'invite à rencontrer ses éducateurs, il m'invite pour 14 heures, et j'oublie. C'est pas la première fois que j'oublie des choses, mais là j'oublie. Et à 4h30, 5h30, je me dis, oh, Johan, oh là là là, enfin bon... Comment ça peut tous nous arriver? Quand même, par acquis de bonne conscience, je décide d'y aller. Et j'arrive au foyer et le Johan en question était sur une marche et m'attendait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais jamais moi j'ai attendu quelqu'un comme ça. Jamais, jamais j'ai eu à attendre quelqu'un comme ça. Enfin, peut-être du côté amoureux, mais sinon dans un cadre de relation de ce type-là. Moi, au bout d'une demi-heure, bon. Et pareil, ça m'a fait comprendre, dans le cadre de la classe, qu'on pouvait avoir des difficultés à appréhender les attentes de l'autre. C'est-à-dire que l'attente de l'autre, elle est parfois à ce point supérieure à ce que moi, je peux imaginer être en capacité, moi, d'attendre. Voilà. Donc ça, c'est des anecdotes personnelles. Deux autres anecdotes, et la plus professionnelle. On lira le texte tout à l'heure, mais c'est une enseignante en primaire qui attend une maman dont elle a eu plusieurs enfants. Donc ça fait plusieurs années qu'elle est en contact avec, enfin qu'elle devrait être en contact avec cette maman puisqu'elle a ses enfants, mais cette maman ne vient jamais. Situation bien connue. Et à chaque fois, elle la relance pour venir. Et puis, une fois de plus, cette maman est invitée, convoquée pour rencontrer l'instit. Et cette fois-ci, donc l'enseignante qui s'appelle Mao est dans sa classe, à son bureau, la porte ouverte, et la maman arrive avec une heure de retard quand même. Et l'enseignante se lève, s'avance vers la maman et lui dit « Qu'est-ce que je suis contente de vous voir ?» Et elle l'accompagne pour s'asseoir et la conversation s'engage. Je raconte ça à des collègues. Je vous mens pas. La plupart, parce qu'il faut jamais généraliser, ça serait une erreur fondamentale, mais la plupart me disent « Quoi ? Elle a attendu une heure ? » Ben moi, je lui aurais dit. Voilà, première anecdote. La deuxième, c'est... pareil, on en parlera. Donc là, c'est une anecdote professionnelle. J'avais monté un projet avec une écrivaine, Brigitte Giroux, pour ceux qui la connaissent, qui est lyonnaise. Et donc, elle intervenait dans ma classe de CAP autour d'un projet d'écriture et de lecture. Et à un moment donné, les élèves sont amenés à lire leur texte qu'ils avaient écrit auparavant, dont un texte poétique, un très beau texte. Et donc, Mathias lit son texte, très fier, à Brigitte Giroux. Et elle dit « Ah, qu'est-ce que j'ai beaucoup d'émotions !» Et là, l'élève dit « Quoi, vous n'aimez pas ?» Et tout de suite, je piche que là, il y a un truc qui se passe, qu'en fait, il y a un malentendu sur la manière dont l'élève comprend l'échange. C'est-à-dire qu'il ne piche pas ce qui se passe. Et donc, je décrypte en disant « Attention, Brigitte aime ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle apprécie ton texte, elle peut te le redire. » Et donc, le malentendu se passe. Et puis la séance se passe de manière très bien. L'élève peut être fier de ce qu'il a lu, enfin la fierté à renvoyer, etc. Voilà, ces deux exemples pour un peu introduire le travail de recherche qui a été proposé par ATD et dans lequel je me suis inscrit. Donc il y a quelques années, en 2009, ATD s'est demandé s'est intéressé à tous les enseignants qui étaient passés par une forme de militantisme au sein du mouvement. Avec cette question-là, est-ce que la rencontre avec des personnes qui vivent en grande précarité, est-ce que ça a une incidence sur les manières d'enseigner ? Alors c'est là où le PowerPoint devrait se mettre en route. Voilà, donc on a intitulé ça « Savoir et coopération à l'école ». Les mots sont piégeux, hein, vous savez bien. Donc on va en discuter. C'est bien une recherche, action, recherche. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas prof d'université, pour le coup. Et donc, j'ai toute l'attitude à dire que je fais de la recherche et de l'action, et de l'action et de la recherche. Ça me pose pas de problème, c'est très bien. Et donc, c'est cette tentative, quand même, de donner du sens à ce qu'on fait de manière usuelle et d'essayer d'abstraire, de conceptualiser. Donc ça débouche sur un livre qui va être publié en mars et qui s'appellera, alors il faut que je retrouve le titre, donc c'est un livre qui sera publié en coédition avec l'ATD et les chroniques sociales, voilà. Et donc sur les... Alors attendez, est-ce que je vais le retrouver ? Donc le titre provisoire, hein, ça serait « Vers l'école de la réussite pour tous, de tous ». On vous en a peut-être déjà parlé, non ? Vers l'école de la réussite de tous, et le sous-titre, ce serait des pratiques pédagogiques s'appuyant sur les élèves dont on n'entend rien. Titre provocateur s'il en est. L'idée, c'est de partir, de se poser, suite à ce que je vous ai dit, hein, par rapport au constat qu'on a pu faire ici, c'est finalement, les questions, c'est où est-ce qu'on apprend à regarder, on en a parlé ici, où est-ce qu'on apprend à regarder ce qui va bien? Plusieurs fois on l'a dit ici, il faut regarder ce qui va bien, mais où est-ce qu'on apprend ça? Où est-ce qu'on apprend ce geste qui consiste à venir s'asseoir à côté de l'enfant qui va pas bien, plutôt que d'être en face à face et de le surplomber? Où est-ce qu'on apprend ça? Où est-ce qu'on apprend, on a parlé de CNV, je sais plus qui dans la salle a parlé de CNV, où est-ce qu'on apprend à utiliser les mots qui partent de soi plutôt que qui accusent l'autre? hein, la CNV, le tu, ouais. Où est-ce qu'on apprend, comme Mao, à accueillir une maman qui ne vient jamais à un rendez-vous et à l'accueillir par un « je suis tellement contente de vous voir ». Hein, c'est ces questions-là. Où est-ce qu'on apprend ça ? Hein, est-ce que l'empathie s'apprend, pour reprendre l'expression de Patrick Picard ? Voilà, donc c'est ce livre, un peu c'est une tentative de répondre, de s'emparer de ces questions. Alors c'est pas un livre qui fait c'est pas un livre qui prétend cerner les bonnes pratiques. Hein. C'est pas un livre qui prétendrait dire ce qu'il faut faire. C'est plutôt un livre qui s'est inventé en marchant. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait je vais vous expliquer la méthodologie après, parce que c'est peut-être ça qui vous intéressera le plus. Mais l'idée, c'est finalement comment un collectif d'enseignants qui décide de réfléchir sur ces pratiques peut peut identifier pour lui-même des pratiques qui peuvent être éditées, peut-être transmises. Voilà. Donc ça, c'est la préface d'Antoine Prost du livre. Cet engagement repose d'abord sur la conviction fondamentale que tous les élèves peuvent réussir à leur façon. Il n'y a pas de fatalité à une situation d'échec. Ces enseignants refusent de se résigner à l'état des choses et à la misère du monde. Leur expérience à Télé Carmonde les a convaincus de l'existence de véritables richesses chez les plus pauvres. Mais pour enterrer Paraty, il faut, par une sorte de révolution copernicienne, modifier profondément le rapport aux parents et aux élèves. Ce n'est pas l'action qui est déterminante, c'est l'attitude. Donc Colette, tout ça, ce sont des enseignants. Des enseignantes. Voilà. Alors l'hypothèse de la recherche, c'est la rencontre avec des personnes connaissant la grande pauvreté, a-t-elle une incidence sur nos manières d'enseigner ? Vous voyez bien qu'ici, c'est une question qui peut se poser dans tous les lieux où on se trouve. On se l'est posé, ATD est venu contacter des enseignants, et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est posé la question. Vous imaginez bien que c'est pas un exhaustif comme lieu. Hein, c'est, voilà. Donc la recherche s'est déroulée de la manière suivante. Il y a eu 15 enseignants qui ont été contactés, hein, 15 enseignants qui sont ou en activité, ou à la retraite, ou jeunes, ou plus âgés, enfin voilà, des gens très divers, des gens qui enseignent en primaire, qui enseignent en collège, qui enseignent en lycée professionnel, un principal. Voilà. Et donc, cette recherche a commencé par... C'est l'équipe d'ATD qui s'est dit on va aller un peu inventorier ce qui se passe. Et donc ils ont contacté 15 enseignants et ont mené des entretiens de 2 heures pour chaque enseignant. Avec comme question des récits de vie professionnelle. Racontez, ils sont venus, donc moi j'ai passé du temps avec l'un d'entre eux, raconte ta vie professionnelle. Et en même temps l'idée c'était de dire... est-ce que des événements, des rencontres vécues à TD que tu peux raccrocher d'une manière ou d'une autre à ce vécu professionnel. Donc le lien était identifié, noté, hein, on le recherchait. Tous ces entretiens ont été transcrits. Vous imaginez, hein, ça fait 2 heures de transcription pour 15 enseignants. Ça fait un volume d'informations gigantesque. Et là, du coup, ATD s'est trouvé un peu coincé, puisqu'ils étaient dans l'incapacité de traiter toutes ces données-là. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont tournés vers l'université de Tours. Vous voyez que c'était pas d'abord une recherche menée avec l'université, hein, c'est quand je vous dis que la recherche s'est inventée en marchant, c'est dans ce sens-là. Ils se sont tournés vers l'université de Tours parce que à Tours, il y avait déjà un partenariat qui avait été mené avec ATD dans le cadre d'un croisement des savoirs université famille populaire. Et donc, il y a eu tout un travail expérimenté entre la rencontre, entre des chercheurs et des familles militantes d'ATD. Et on a été donc accompagné par un chercheur qui s'appelle Pascal Galvani et qui nous a orienté, enfin, qui les a orientés en disant, écoutez, il y a trop de choses, il faut cibler. Et du coup, il a proposé d'utiliser la méthode de l'entretien explicitatif de Vermeersch, hein, que vous connaissez peut-être, où il s'agit du coup de, dans un entretien de vie, de cibler un événement et de l'étendre, de le déployer. Hein. C'est ce que Pascal Gamini appelle ça, saisir le kairos. Hein, le kairos. K-A-I-T-R-E-M-A-R-O-S, ce serait un dieu grec, le dieu grec de l'occasion. Vous voyez, c'est ce moment qu'on saisit, un peu intuitivement, alors il est représenté comme un jeune garçon qui court avec une touffe de cheveux et qu'on chope au passage par les cheveux. Donc l'idée, c'était de dire, dans tous les récits professionnels, à quel moment on peut saisir le kairos, le moment, alors d'aucuns l'appelleront l'incident critique, Bucheton elle appelle ça transformer l'incident en événement dans son bouquin Les gestes professionnels. L'idée c'est vraiment d'identifier dans les récits qu'est-ce qui se passe à un certain moment. Et donc là, rebolote, encore des entretiens qui ont duré une ou deux heures, où on développe ce travail-là. Alors ça donne ça, par exemple. Alors si je prends, si je prends celui de que je vous ai cité tout à l'heure. Donc chacun est amené à réécrire son texte. Donc ça, il y a un vrai travail de récit. Hein. C'est-à-dire qu'on est confronté à la fois à ce qu'on a dit. Et à la fois, on est amené à réécrire, c'est-à-dire à repréciser pour soi-même hein, ce qui a été dit. Alors, ça donne ça, par exemple. Hein. Vous arrivez à lire ou pas ? Bon, je vous lis juste. Ce jour de novembre, j'étais donc dans ma classe, la porte ouverte. Quand la maman est arrivée avec une heure de retard, j'étais assise à mon bureau. Je me suis levé pour aller la voir, lui dire bonjour à la grande sœur et à la copine. Nous avons discuté deux minutes pour voir comment on allait s'organiser pour aller chercher Ariatou qui était en étude. Sa grande sœur s'en est chargée, puis la maman est entrée. J'étais vraiment heureuse de la voir parce que je pensais qu'elle ne viendrait pas. J'avais donc d'autant plus envie qu'elle se sente accueillie à l'école, qu'elle se dise que c'était possible de revenir, car je tenais à la revoir plusieurs fois dans l'année. Et le chercheur Pascal Galvani, donc Mao raconte ça, enfin elle écoute ça, elle lit sa transcription, elle dit « mais il n'y a rien d'étonnant, tout le monde fait ça ». Hein, vous voyez, l'idée de cette recherche, c'est de dire, c'est évident. Et là, Pascal Gavini dit, non, c'est pas évident. Où est-ce que t'as appris ça? Comment tu fais ça? Comment t'en es amené à ça? Vous voyez, tout ce travail de, tu fais quelque chose que tu sais faire, mais tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on sait faire ça, on le fait sans le maîtriser. On n'est pas dans la maîtrise de ça. Donc l'idée de la recherche, hein, c'est de s'arrêter sur ces moments-là et d'en faire réellement, de s'en ressaisir. Donc ici, c'est un des exemples. Un autre exemple, hein, ça serait celui dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, vous voyez bien, il y a aucune prétention là-dedans. Hein. C'est là où on n'est pas du tout dans les bonnes pratiques. Hein. On est simplement dans, on raconte quelque chose qu'on fait et on s'aperçoit que ce qu'on fait, c'est intéressant et ça a des implications et que ça crée les conditions pour que des élèves se mettent à parler ou des élèves se mettent à apprendre. Un peu plus tard, donc ça c'est la scène que je vous raconte dans la bibliothèque, donc ça c'est de moi dont il s'agit. Un peu plus tard se déroule un événement que je trouve très intéressant. Je demande aux élèves de lire leur production réalisée dans un atelier d'écriture préalable. Mathias annonce qu'il va lire un texte dont il était très fier, texte collectif écrit 15 jours auparavant. Vous allez voir, on a écrit un truc super. Je lui fais lire deux fois, une fois pour le lancer, une autre fois pour qu'il y ait un temps où on peut savourer la fierté d'une réussite. À la fin de la lecture, Brigitte a cette réaction. « Ah, je suis très ému, je ressens beaucoup d'émotions. » Surprise, Mathias sort de ses gonds en s'exclamant « Quoi, vous n'aimez pas? Vous trouvez pas ça bien ?» Oh là là, j'identifie tout de suite ce qui joue. Brigitte réagit comme on peut le faire entre adultes. Elle est sur un implicite culturel partagé. Tu me lis un texte, je réagis à partir de l'effet produit sur moi, en moi. Et l'élève ne comprend pas du tout cette réponse. Voilà. Et là, pareil, Pascal Galvani, enfin, tout ce travail, c'est de dire, mais voilà, comment t'as identifié? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? D'où vient cette réaction-là? Voilà. Alors, du coup, une fois qu'on a été confronté à ce deuxième entretien d'explicitation, où tout d'un coup, on se met à préciser. Alors, moi, je trouve ça passionnant. Du coup, c'est vraiment une méthode que je réutilise en formation. Comment est-ce qu'on raconte un événement? Comment est-ce qu'on rajoute de la couleur? Comment est-ce qu'on rajoute du contexte? Comment est-ce qu'on entre dans le détail de ce qu'on fait? Hein, c'est vraiment un travail sur la prise de conscience, finalement. Hein, c'est sur la conscientisation de ce qu'on est en train de faire. Hein. Moi, je trouve qu'en travail d'enseignant, c'est tout à fait intéressant. Donc ça, c'était la première étape. Et puis, du coup, enfin, déjà, la deuxième étape après les premiers entretiens, ensuite, on nous a proposé de continuer ce travail ensemble. Et c'est là où on est devenu un chercheur collectif, pour reprendre l'expression qu'on a employée, c'est-à-dire que il fallait inventer ensemble la grille d'analyse de ces entretiens. La grille n'existait pas au préalable. Hein, on s'est pas référé à une grille et du SCOL ou je sais pas quoi. L'idée, c'était de, à partir de ce qu'on était, de ce qu'on faisait, est-ce qu'il y avait des redondances? Est-ce qu'il y avait des récurrences? Est-ce qu'on voyait bien que le fait d'avoir vécu des rencontres ici, au fond, ça créait des échos, Hein, c'était ce travail-là qu'on a tenté de faire. On s'est rencontrés plusieurs fois sous forme de séminaire. Voilà, moi j'ai eu de la chance puisque du coup l'UFM a un petit peu accompagné ce travail-là. Donc j'ai pu être engagé dans ce travail-là aussi au titre de professionnel. Et l'idée c'était d'arriver à identifier finalement des items, hein, des grandes catégories qu'on pouvait identifier. Alors on les appelait ici clés. Bon, voilà, clés, domaines. Ailleurs, on les a dans le livre, ça sera plutôt des domaines. Les clés, c'est un côté magique, comme si il suffisait de les manipuler pour. Voilà, mais bon, on se bataille tous avec comment trouver le bon mot pour parler de ce qu'on a trouvé. Donc l'idée, hein, il y en a 7, ça serait créer des espaces de vrai dialogue, poser les conditions d'échange au service de la réussite, prendre le parti pris de la valorisation, restaurer la confiance, instaurer des liens entre le vécu personnel et l'apprentissage scolaire, reconnaître le rôle de l'implication de la personne de l'enseignant. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Je suis pas en train de vous dire, j'ai trouvé un truc génial qu'on va pouvoir enfin appliquer pour la réussite de tous. C'est pas du tout ça. Hein, c'est finalement un travail qui rend modeste, puisque alors même qu'on aurait aimé trouver la grille qui nous aurait permis de faire réussir tous les élèves, on se rend compte qu'en fait, ce sont des préoccupations, hein, qui sont là depuis très très longtemps. Simplement, la question qu'on déblaye, c'est finalement où est-ce que ça se construit, hein. Où est-ce qu'on construit les gestes professionnels pour créer des espaces de vrai dialogue, où est-ce qu'on apprend les manières de poser les conditions d'échange qui soient au service de la réussite, hein. Voilà, c'est plutôt ça. Donc finalement, on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'il faut faire, pardon, et ça on le sait tous. La question, c'est finalement où est-ce qu'on apprend, où est-ce qu'on se forme à le faire. Voilà. Alors un exemple. Un des domaines qu'on a repéré, hein, qui semble être un des lieux communs à tous ces enseignants qui étaient passés par ATD, mais là encore, je redis, c'est pas strict, c'est pas. On expérimente. J'ai entendu parler des Francas ici ou là. J'ai entendu parler. Voilà, il y a des lieux. Donc c'est de reconnaître, hein, cette question de l'implication de la personne de l'enseignant. Voilà. On peut être des bons didacticiens, on peut être des bons spécialistes de nos matières. Au fond, il y a un moment où on s'est dit, il y a quand même la question de l'implication de la personne de l'enseignant, elle nous semble finalement incontournable dans ce métier. Alors, les savoirs d'action qui seraient liés, l'idée c'est de se dire... À ATD, en participant à des bibliothèques de rue ou en participant à des clubs du savoir. Donc bibliothèque de rue, c'est le fait d'aller lire tous les mercredis des livres des gamins au pied des immeubles, ou le fait d'avoir participé à un club du savoir. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est participer avec des jeunes de milieux très défavorisés à des rencontres avec des hommes politiques, avec des responsables syndicaux, avec voilà. Est-ce que ça développe des savoirs d'action, hein? Et quels sont ces savoirs d'action? Quelles sont ces choses qu'on apprend à faire, qu'on n'identifie pas, qu'on réutilise sans les identifier? Et tant qu'on les a pas nommés, on les utilise comme ça et on sait pas qu'on sait. Donc le savoir d'action, c'est un des savoirs d'action, ça serait établir le lien entre l'implication de l'enseignant et les apprentissages. Un autre savoir d'action, ça serait rejoindre l'élève dans sa dimension émotionnelle pour lui permettre de grandir. Ou un troisième savoir d'action, ça serait choisir le parti pris de la personne contre tous les réductionnismes. Voilà. Alors par exemple, si je fais le lien entre le texte qu'on a lu tout à l'heure, savoir d'action, établir le lien entre l'implication de l'enseignant et les apprentissages, comment ça se traduit dans l'action concrète, dans la relation? Ça pourrait être ça. C'est la première fois que je la voyais à l'école. Je sentais que c'était pas facile pour elle d'être là. Elle était un peu gênée, un peu intimidée. La porte était ouverte et je crois j'étais super content de la voir parce que je pensais qu'elle viendrait pas. Du coup, pour moi, j'avais vraiment envie qu'elle se sente accueillie dans l'école. J'avais vraiment envie. Voilà. C'est là où la posture professionnelle intègre une dimension de l'implication de l'enseignante, hein, dans ce vraiment envie. et où tout d'un coup il y a quelque chose qui transpire dans la posture professionnelle. Donc c'est anonymé ici, c'est, on l'appelle Cécile, elle s'appelle Mao ailleurs. Voilà. Et alors, quel lien Mao ou Cécile fait avec ce qu'elle a vécu à TD? Ça serait là. Elle raconte une expérience qu'elle a vécue lors d'une bibliothèque de rue à TD. Donc, je vous rappelle, la bibliothèque de rue, c'est le fait de venir avec des caisses de livres dans des quartiers de banlieue, des cités, et on met une couverture par terre. On sort les livres et les gamins arrivent et puis il y a une bibliothèque à ciel ouvert. Voilà, il y a une association art et développement qui fait la même chose avec de la peinture sur la région lyonnaise. Voilà, et donc Mao, Cécile raconte cette anecdote. Cette bibliothèque de rue existait essentiellement pour rejoindre une famille qui était très marquée, qui sortait très peu, qui vivait avec des rideaux noirs devant les fenêtres. Et les enfants passaient quelquefois les livres par la boîte aux lettres parce qu'ils étaient enfermés chez eux, car les parents ne voulaient pas ouvrir. Et elle raconte que jour après jour, semaine après semaine, il y a eu cette espèce d'obstination têtue, hein, des animateurs d'ATD là, à continuer à donner des livres alors que la porte ne s'ouvrait pas. Et puis un jour, la porte s'ouvre. Hein. Et dans cette attente tranquille, cette attente têtue, j'aime bien ce terme-là, hein, cette obstination, au fond, c'est construit un savoir d'action, le fait de savoir attendre. Hein. Et du coup, quand Mao raconte cette maman qu'elle attend, ça fait 3 ans qu'elle l'attend. Voilà, et le jour où la maman se pointe dans sa classe, eh ben elle est prête. Voilà, elle est... Bon, moi je trouve ça intéressant parce que on n'est pas dans du sentimentalisme, à mon sens. Hein. On n'est pas que dessus de l'intuition. On n'est pas sur « je suis bien luné, et du coup je l'accueille bien ». Hein, voilà, on est sur des choses qu'on apprend. Et l'attente, ça s'apprend. Bon, alors ça c'est des pistes hein, en guise de conclusion. Et là encore, hein, on n'invente rien. C'est pas révolutionnaire. Hein. Des lieux de rencontre avec des personnes différentes, ce sont des occasions de formation, des lieux où des savoirs d'action s'élaborent. Moi j'ai un copain qui est médecin, qui est addictologue au Puy-en-Velay. Il fait des interventions. Il est chef de service. Il fait des interventions à la fac en première année de médecine. Et puis il leur dit c'est très bien d'apprendre votre métier dans les couloirs de l'hôpital, vous l'apprendrez aussi au SAMU social, vous irez l'apprendre aussi au Resto du Cœur, votre métier il s'apprend pas que dans les couloirs. Voilà, il me semble que c'est ces parallèles là qu'on peut établir. J'ai un étudiant il y a 2 ans qui passait le concours PLP. Il a passé une année à essayer d'oublier ce qu'il avait appris chez les Francas. Il avait organisé des événements où il y avait 300 personnes, où il organisait des journées entières, et prenait, mais quand il était à l'UFM, il passait son temps à surtout oublier ça. Moi, j'ai passé une année à lui dire, mais c'est pas possible. Enfin, ton métier, tu l'as appris là. Voilà. Donc, toutes ces questions d'étanchéité, hein, ces questions voilà comment la personne de l'enseignant se nourrit de toutes les facettes de sa propre personnalité et ces facettes se construisent ailleurs que dans l'espace professionnel stricto sensu. Voilà, des espaces où des professionnels réfléchissent ensemble sur leur pratique professionnelle, hein, c'est toute la question de l'analyse de la pratique. Comment est-ce qu'on se donne la chance et les occasions de réfléchir ensemble comment on agit, qu'est-ce qu'on met en œuvre. Et puis, la question de la prise en compte de ces savoirs d'action dans la formation des enseignants. C'est-à-dire, on se comporte avec les enseignants qui déboulent dans nos formations comme avec les élèves qui déboulent dans nos classes. On a l'impression qu'ils ne savent rien. Et du coup, on peine. Mais à coup ou pas, hein, c'est moi qui le dis. Hein. On peine à prendre en compte ce qu'ils savent déjà faire et du coup à construire à partir de ça. Alors voilà, ce qui sera présent dans le livre, ça c'est vous avez l'exclusivité et la primeur. Donc c'est les savoirs d'action. Hein. Donc il y a 7 grands domaines qui sont identifiés. Pour chaque domaine, on est quand même cartésien jusqu'au bout des ongles, c'est terrible ça. Hein. Il y a 3 savoirs d'action. Et puis il y a des actions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un peu des verbes derrière. Alors si par exemple, si on prend celui qu'on a lu, bon, on va lire peut-être simplement les 7, hein. Donc c'est pour permettre l'accès au savoir, créer l'alliance nécessaire entre et avec tous les élèves, avec leurs parents. Le deuxième domaine, ça serait exercer une autorité au service de la réussite de tous les élèves. Le troisième domaine, ce serait prendre le parti de la valorisation de l'élève le plus exclu. 4. Mener des projets ambitieux qui ouvrent l'école sur son environnement et redonnent confiance et fierté aux élèves et à leurs parents. Parce que on s'est aperçu, mais c'est intéressant, quand on discutait avec les 11 enseignants, parce qu'il y en a 4 qui n'ont pas pu suivre, donc on est resté à 11, à chaque fois qu'on avait... régulièrement, quand on avait un événement signifiant à raconter, c'était régulièrement un événement qui se passait hors de la classe. À la bibliothèque, dans un circuit dans la ville... Voilà, c'était donc on s'est interrogé là-dessus en disant tiens, pourquoi est-ce que quelle est la place de ces projets dans ce qu'on veut faire. 5, accepter de considérer son propre modèle social comme un modèle parmi d'autres, hein, c'est là où je trouve que prendre son métier et la vie en pleine figure, c'est quand même de ça dont il s'agit, c'est quand même des fois des chocs, hein. S'appliquer en tant que personne, s'engager auprès de chacun sans exception. Et puis le 7, c'est agir en praticien réflexif, c'est-à-dire le premier savoir d'action, c'est adopter une posture de recherche tenant compte de la situation particulière des élèves. Voilà.